les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Jacques Bergier, un être réel, mais aussi à sa façon un personnage de roman et de bande dessinée. Le co-auteur du Matin des Magiciens, son complice étant Louis Powels. Le fondateur de la revue Planète, mais encore le modèle de Mick Esdanitoff, le savant qui roule les airs dans Vol 714 pour Sydney, d'Hergé. Jacques Bergier appréciait Gustave Le Rouge, évidemment, mais il commence son intervention en dénigrant l'excellent roman du dit Gustave Le Rouge. Quand même, le mystérieux docteur Cornelius, osez cela, c'est étrange. Première diffusion sur France 3 Nationale, le 3 juillet 1962.
Ici Paris, radiodiffusion télévision française, longueur d'onde 312 mètres. Le service des émissions culturelles présente, en nouvelle diffusion, des extraits du Collège des ondes et de Plaisir de la lecture.
Le Collège des ondes présente une série d'émissions consacrées aux voyages imaginaires. Monsieur Jacques Bergier vous parle de Gustave Le Rouge et René Clermont vous lira quelques pages des romans L'astre d'épouvante et Le naufragé de l'espace.
On sait assez peu de choses sur Gustave Le Rouge. Cet homme d'une immense culture, mort entre les deux guerres, était un anarchiste, ennemi de Blaise Cendrars et un écrivain de feuilletons populaires. La plupart de ces feuilletons populaires méritent largement l'oubli où ils sont tombés, le docteur Cornelius par exemple. Mais Gustave Le Rouge nous a également laissé deux livres qui ont été publiés dans leur version définitive par la librairie Hachette en 1917 et en 1928 et qui se suivent. Le premier s'appelle « Le naufragé de l'espace », le second « L'astre d'épouvante ». Ces deux livres constituent un très bel exemple de voyage imaginaire. Il se passe dans un monde qui n'est pas le nôtre et que l'auteur appelle la planète Mars. À vrai dire, cette planète Mars n'a aucun rapport avec le Mars des astronomes, pas plus que l'Inde que l'auteur décrit n'a aucun rapport avec l'Inde telle qu'elle existe, pas plus d'ailleurs que les moyens employés pour faire les voyages imaginaires n'ont aucun rapport avec le réel. L'ingénieur Robert Darvel se propulse en effet dans un projectile qui est actionné par la volonté concentrée de tous les fakirs de l'Inde. C'est dire qu'il ne s'agit pas de science-fiction et que cela n'a aucun rapport ni de près ni de loin avec ce qui est possible. Imaginons donc simplement un homme, un Français du début du XXe siècle, l'ingénieur Robert Darvel transporté par une baguette magique, car c'est bien d'une baguette magique et de contes de fées qu'il s'agit, dans un monde qui n'est pas le nôtre. Un monde semblable à un enfer de Dante modernisé. Un monde où l'ingénieur ne trouvera pas les guides que Virgile a été pour Dante, mais il trouvera dans une caverne de ce monde un masque d'opale qui permet de voir l'invisible. Et à l'aide de ce talisman magique, il verra un certain nombre de spectacles qui ne ressemblent à rien, qui constituent en vérité un prodigieux effort de l'imagination. On voit assez mal les sources de Le Rouge. Il cite beaucoup Baudelaire, dont deux très beaux vers, les damnés descendaient sans lampe, d'éternels escaliers sans rampe. Il a visiblement lu Poe, il a lu Dante, il a lu Milton, mais il a surtout énormément imaginé, énormément créé. Et son livre constitue un dépaysement extraordinaire. Tenez, cette première rencontre de l'ingénieur Robert Darvel avec un monstre.
Soudain, avec une rapidité déconcertante, une forme bondit et saute là sur le sable. Robert demeura frappé d'épouvante. Le monstre qu'il apercevait dépassait en horreur les plus extravagants cauchemars. que l'on se figure l'apparence grossière d'un visage humain qu'on eût façonné dans une gélatine transparente et visqueuse. Les yeux, sans paupières, avaient le regard terne et glacial des pieuvres. Mais le nez, aux ailes frissonnantes, la bouche énorme, munie de dents noires, avait une expression de férocité mélancolique et de tristesse dédaigneuse. Cette face fantastique était entourée, dans toutes les directions, par ces milliers de tentacules blancs que l'ingénieur avait d'abord pris pour des vers marins. Le jeune homme se sentait plus épouvanté que s'il se fût trouvé en face d'un lion ou d'un tigre. Cet être évoquait une création arrêtée au stade des mollusques et arrivée à une hideuse ébauche qui eût tenu le milieu entre l'homme et le poulpe. C'était pour lui une extraordinaire révélation. Il en oubliait le danger réel auquel il était exposé. L'intelligence que nous possédons, songea-t-il, n'a pas été forcément spécialisée dans l'ordre des mammifères, dont l'homme est le suprême fleuron. Il eut l'effrayante vision des planètes peuplées par des hommes plantes, des hommes insectes et des hommes reptiles, égalant, dépassant même la puissance intellectuelle que nous avons atteinte. Pourquoi cela ne serait-il pas? Même sur le globe terrestre, certains animaux, comme par exemple l'éléphant, approchent de l'intelligence humaine. Peut-être ne leur a-t-il manqué qu'un instrument plus commode, la main, des milieux mieux adaptés, des circonstances d'évolution plus heureuses pour tenir un rang égal au nôtre. Robert avait toujours pensé, d'ailleurs, que par le seul fait que notre cerveau peut les former, toutes les conceptions de notre intellect, même les plus folles, existent quelque part. Toute création de notre imagination, toute affirmation de notre raison répondent à une réalité. La négation seule ne répond à rien. Et il existe certainement un lieu psychologique où tout ce qui est affirmatif et créateur se complète et se concilie, quoique en apparence contradictoire. Robert demeurait perdu dans ses pensées lorsque son attention fut brusquement rappelée vers son étrange adversaire. Maintenant, le céphalopode humain s'étalait sur le sable comme un disque aplati. Il ressemblait à ces naïves représentations du soleil où l'on voit une figure d'homme entourée de rayons. Puis, comme il avait changé de forme, il changea de couleur. Il devint de la même teinte rougeâtre que le sable avec lequel il se confondait presque.
Ce monstre, l'auteur essaie de le justifier. Dans le passage qu'on venait d'entendre, il prétend qu'à chaque affirmation de notre esprit doit correspondre à une réalité. Ceci, bien entendu, est faux. Le monstre dont vous venez d'entendre la description est un cauchemar, inspiré probablement par les martiens de Wells dans la guerre des mondes, inspiré aussi par ces êtres bien réels que sont les poulpes, inspiré probablement par la lecture des travailleurs de la mer de Victor Hugo, et pourtant c'est une véritable création de l'esprit et une création que l'on n'oublie pas. Et voici maintenant, au cœur de ce monde imaginaire que Gustave Lerouge appelle la planète Mars, et qui n'a aucune espèce de rapport, répétons-le, avec la planète Mars réelle, celle qui est dans le ciel et que les astronomes observent, une caverne. Une caverne échappée d'un enfer original, une caverne où des vols de monstres se promènent dans une obscurité palpable.
Ah oui, la caverne, murmura-t-il. Il me semble encore voir ces hautes voûtes ténébreuses soutenues par des milliers de stalactites. C'était une vision diabolique que ce noir intense, piqué de milliers d'yeux luisants, qui arrivait à créer une sorte de pénombre, comme un crépuscule louche et malsain, qui me permettait à peine d'apercevoir les fûts luisants des colonnes, les parois tapissées comme d'un hideux velours mortuaire par les ailes innombrables des monstres. Il s'exhalait de cette caverne une pestilence épouvantable, une odeur âcre de guano, mêlée à des relents de charniers. Certes, j'avais peur, et je ne suppose pas que personne à ma place se fût montré plus brave. Mais j'éprouvais encore plus de dégoût que de frayeur. J'étais à chaque instant frôlé par les hideuses ailes velues et membraneuses qui me causaient une sensation de nausée invincible. Je me serais évanoui si l'excès même de ma terreur n'avait raidi mes nerfs. J'étais le centre d'un vol d'herlors qui dardaient vers moi leurs prunelles de feu avec une curiosité féroce. Quelques-uns s'approchaient si près que la fadeur écœurante de leur souffle passait sur mon visage. Blotti dans un angle du rocher, réduit à l'immobilité par le filet de fibres d'écorce qui m'emprisonnait, je m'attendais d'un instant à l'autre à être dévoré. Je ne me faisais là-dessus aucune illusion. Je savais que j'étais condamné d'avance. D'instant en instant, les herlors devenaient plus nombreux. Le nombre infini des astres, la multitude des lumières d'une grande capitale vue de la nacelle d'un ballon, donnerait à peine l'idée de ce fourmillement d'yeux de flammes qui piquait les ténèbres autour de moi, m'entourait d'une affreuse auréole. Les monstres se poussaient, se bousculaient pour mieux me voir, avec de temps en temps des grognements de colère et des battements d'ailes éperdues. De nouveaux essaims venaient sans cesse se mêler aux premiers arrivants. Il en tombait de la voûte, il en montait du sol de la caverne. Les rondes du sabbat, les tentations des peintres hallucinés, ne donneraient qu'une piètre idée de ce grouillement démoniaque, d'où partait maintenant un bourdonnement assourdissant, coupé de cris aigus, comme la rumeur d'une foule courroucée. Je frémis en songeant qu'il se disputait sans doute à qui me dévorerait, que j'allais peut-être être déchiré tout vivant par eux. Je n'ai jamais su l'objet de leur querelle. Mais après une heure pendant laquelle je passais par toutes les affres de l'agonie, la hideuse cohue s'apaisa. Avec un grand claquement d'ailes, la caverne se désemplissait peu à peu. Les prunelles scintillantes se faisaient moins nombreuses et s'écartaient de moi petit à petit. Bientôt, je fus plongé dans une obscurité si profonde qu'on eût pu la croire palpable comme celle dont parle la Bible.
Et voici un autre passage, celui-ci bien hors de l'espace et hors du temps, dans un lointain continent de l'imagination humaine. Il s'agit d'une forêt, une forêt comme il en existe dans les rêves seulement.
L'endroit où était dressé le camp était délicieux. C'était une clairière ombragée de grands arbres et bornée vers le fleuve par une plage de sable rose. Les feuillages, comme je l'ai remarqué dans toutes les régions de la planète que j'ai parcourues, n'avaient presque nulle part la coloration verte des frondaisons terrestres. Ils offraient toutes les gammes du jaune et de l'oranger, depuis le chrome vif des oranges et des potirons, jusqu'au jaune éclatant des bananes, au vert fiévreux des citrons. Ces arbres n'étaient plus les éternels saules, les hêtres rouges et les noisetiers qui peuplaient la contrée du Nord. Des végétaux de la famille des palmiers et des bananiers agitaient au vent le panache de leurs amples feuillages couleur d'or bruni. C'était littéralement une forêt d'or d'une richesse presque fatigante pour le regard. Le sol était couvert d'une longue mousse violette, douce aux pieds comme le plus moelleux tapis de haute laine, et des cactés hérissés de piquants et couleur de fer rouillé bordaient les sentiers, semblaient les clôtures de ce parc naturel. Cette forêt-là faisait songer aux capricieux paysages de l'Arioste, à l'Atlantide, à la Floride, à tous les pays de rêve où de tout temps s'est réfugiée l'imagination des poètes blessés par l'inexorable dureté des hommes et des choses. Elle avait un air de légèreté irréelle. Ses couleurs étaient trop adoucies et à la fois trop éclatantes, ses bosquets trop noblement disposés, pour que tout cela ne fût pas une illusion qui, d'un moment à l'autre, allait s'évanouir.
Et voici un extraordinaire gratte-ciel souterrain qui est peut-être un cimetière vertical, peut-être quelque chose de tout à fait inimaginable pour l'esprit humain. Un gratte-ciel inspiré à la fois par les gratte-ciels américains que le terrain verse en quelque sorte et par l'enfer de Dante. Un gratte-ciel souterrain, un abîme vertical que l'on n'oubliera pas.
Puis je détirai mes membres avec délices. La tour de verre était deux fois ou trois fois large comme le Colisée, et la plateforme circulaire sur laquelle je me trouvais, et que d'ailleurs ne protégeait aucune balustrade, me semblait d'une vastitude infinie. Un soleil ardent plongeait ses flèches aiguës jusqu'au fond du gouffre central, d'où montaient des voix confuses. Je me penchai vers l'abîme ruisselant de lumière et je comptai jusqu'à 39 étages de colonnettes, tous d'une couleur différente. Chaque colonnette était séparée de la voisine par une niche profonde, un trou d'ombre, et toutes les niches étaient exactement de la même dimension. L'ensemble donnait l'effarante sensation d'un colossal rayon de miel aux alvéoles pareilles. Au-dessous du 39e étage, les rayons du soleil n'arrivaient plus, l'ombre commençait, laissant deviner à l'infini d'autres étages semblables. Je me demandais, avec une sorte de terreur, si cette tour d'une épouvantable monotonie se prolongeait ainsi jusqu'aux entrailles de la planète. Et je cherchais vainement l'usage de ces niches profondes où l'on eût pu loger des milliers et des centaines de milliers de statues. Les colonnes avaient toutes la même forme, des fûts arrondis et sans aucun ornement, avec deux boules pour base et pour chapiteau. Les pattes de verre qui les formaient étaient colorées violemment. Ces boules et ces cylindres étincelaient comme de grosses pierres précieuses. Je ne pouvais me rassasier de leur contemplation. Leur étincellement m'hypnotisait. Je dus me rejeter en arrière. Je me sentais attiré par le gouffre éblouissant, secoué d'un frisson de vertige. Je me demandais encore quel pouvait être l'usage de cette infinité de niches. Ma supposition la plus vraisemblable fut que je devais me trouver en face de quelque catacombe aérienne, de quelque cimetière vertical. Chaque niche, sans doute, devait recéler le cadavre embaumé ou réduit en cendres d'un martien des anciens âges.
Et voici pour finir un domaine de la mort, un domaine qui très probablement, sinon ce serait une coïncidence extraordinaire, a inspiré à René Dommal son mot analogue. Un domaine qui évidemment provient un peu des aventures d'Arthur Gordon Pym de Poe, car tous les voyages imaginaires se passent un peu dans le même royaume de l'imagination, mais un domaine sinistre et qui mériterait d'inspirer un jour un peintre fantastique.
Cette réflexion calma un peu mes craintes et m'expliqua ce que m'avait dit le vampire, que la région de la mort était battue par une tempête perpétuelle. C'était déjà l'explication par les lois naturelles d'un fait de prime abord merveilleux. Au matin, je pris mon esquif que j'avais abrité dans une anfractuosité et je me remis en mer. La pluie avait heureusement cessé, mais le ciel demeurait couvert et la chaleur était plus suffocante encore. La montagne se dressait maintenant devant moi comme un rempart à pic, et je constatais qu'elle offrait exactement la forme d'une demi-sphère dont les flots de la mer baignaient la base. Je pouvais me rendre compte que les représentations de cette montagne, vues dans les dessins brodés, se trouvaient parfaitement exactes. J'évalue la hauteur de la montagne à peu près à celle du Mont Blanc, avec une largeur 3 fois plus considérable. À mesure que je me rapprochais, l'énorme dôme, parfaitement uni dans toute sa masse, m'apparaissait d'une couleur blafarde, comme serait en plein jour une lumière entourée d'un papier gris. À droite et à gauche, j'apercevais une terre beaucoup plus basse et que couvrait une forêt d'immense étendue, avec cette particularité que les arbres en étaient brillants, comme s'ils eussent été frottés de plombagine, ou encore comme certains bois minéralisés qu'on trouve dans les houillères. Mais toute mon attention se portait vers la montagne maudite, qui, par une illusion d'optique bien connue, me paraissait toute proche, bien que j'en fusse encore très éloigné. La mer, à cet endroit, était semée de récifs et de bancs de sable, traversée de courants, au milieu desquels j'avais beaucoup de mal à maintenir mon embarcation. Des cadavres de poissons et d'oiseaux flottaient le ventre en l'air, comme si le voisinage de la montagne maudite eût été mortel à tous les êtres animés. Une odeur de carnage et de pourriture montait de ces vagues désolées. Aucun paysage terrestre ne peut donner une idée de l'aspect sinistre et grandiose de cette perspective.
Que peut signifier ce voyage imaginaire ? Je ne pense pas qu'il faille chercher une explication psychanalytique quelconque. L'auteur s'explique lui-même très clairement. Il a voulu s'évader d'une vie trop cruelle et trop dure pour lui dans un monde imaginaire, mais dans ce monde imaginaire lui-même, les terreurs de la vie l'ont suivi, amplifié. Pour autant que le monde de Le Rouge représente quelque chose, il représente la société que Le Rouge détestait et qu'il écrasait. Tous ces monstres, tous ces fantômes, tous ces vampires et les dominants, tous les grands cerveaux qui règnent sur sa planète de l'imagination, sont purement et simplement les diverses représentations de l'autorité qui pesait sur lui. Il n'a pas voulu faire une satire sociale, il a voulu s'évader et il y a parfaitement réussi entraînant avec lui les lecteurs. Il ne s'agit pas, répétons-le une fois de plus, de science-fiction. Si on réédite ces livres, et ils mériteraient d'être réédités, il faudrait, avec le consentement des héritiers de l'auteur, si on les trouve, supprimer le mot Mars, modifier un peu le texte de façon à parler simplement d'un monde imaginaire quelque part hors de l'espace, hors du temps, un monde qui n'est pas le nôtre, et laisser librement courir l'imagination du lecteur sans créer aucune confusion avec la planète Mars.
Vous venez d'entendre des pages de Gustave Le Rouge, présentées par M. Jacques Bergier, et lues par René Clermont.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France 3 Nationale le 3 juillet 1962. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.